Il faut prier pour les étudiants de l'institut. Il y a Alexandre qui a mal au pied, donc il va devoir se faire inciser le pied. Il y a Zoïla qui a toujours qui est assez souffrante. C'est une. J'aimerais parler des desseins du diable. Et dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 2, versets 10 et 11, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 2, versets 10 et 11, Paul écrit à cette église: Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et apparemment, les chrétiens du temps de Paul n'ignoraient pas les desseins, les plans, les projets, les méthodes du diable. En tout cas, Paul, lui, ne les ignorait pas, il les connaissait. Et à travers les Écritures, on peut découvrir quels sont ces desseins du diable. Ici, comment ils ont confronté les desseins du diable? En pardonnant un chrétien de cette église qui avait péché. Et Paul leur a dit, maintenant qu'il s'est repenti, il faut le rétablir dans la communion, il faut lui pardonner et le réintégrer. Il ne faut pas le laisser dehors parce que le diable en profiterait. Et c'est ça, hein, son message ici dans ce passage. Nous n'ignorons pas les desseins du diable. Son but, c'est quoi? De détruire les églises, hein, de détruire la foi. Et donc, le pardon est une des réponses, là, hein, de se pardonner, de s'aimer réciproquement. Alors, quel est le grand dessein, si on peut dire, hein, du diable, son but principal dans la vie? Eh bien, on le découvre lorsqu'il va tenter Jésus en Matthieu, chapitre 4. On va regarder pas mal de versets, donc ça, si vous avez votre Bible, ça vous permettra de découvrir la parole de Dieu plus avant. Matthieu 4, verset 9. Donc Jésus est à jeûner 40 jours, il est seul dans le désert, Satan vient le tenter. Et verset 9, il dit: Je te donnerai tous ces royaumes si tu te prosternes et m'adores. Avec cette phrase, il a révélé ce qu'il voulait profondément. Avant, il n'a pas dit ça au tout début. Il lui a dit, pourquoi tu ne changes pas ces pierres en pain? Si tu as faim, tu peux faire des miracles, tu es le fils de Dieu. Il a essayé de flatter Jésus et Jésus ne s'est pas du tout laissé impressionner, évidemment. Mais là, il révèle ce qu'il veut. Écoute, je te donnerai tout avec un petit si à la fin. Vous savez, comme dans les contrats un peu miteux ou un peu... D'escroquerie, hein. Vous avez en gros, voilà tout ce que vous allez avoir, et puis un petit, tout petit, si. Voilà. Sur Internet, hein, il y a ces escroqueries qui courent par email où on vous dit, écoutez, je viens de toucher un héritage d'$1 million, mais je ne peux pas le toucher en fait. J'ai besoin qu'une personne, je suis en Afrique, et j'ai besoin qu'un Français ou un Européen fasse des démarches administratives pour que je puisse toucher cet héritage, mais si vous m'aidez, vous aurez 10 000 $, hein, je vous assure. Alors, et simplement, vous devez envoyer à cette adresse un chèque ou un mandat de temps, si vous l'envoyez, vous ne revoyez plus jamais cet argent, évidemment. Et donc, on vous dit, tu vas toucher 10 000 $, si. Et puis, le si, bien sûr, est une escroquerie. Et Satan, là, il révèle, si tu m'adores, si tu te prosternes, Satan veut qu'on l'adore à la place de Dieu. C'est son désir le plus profond, c'est son but dans la vie, c'est de prendre la place de Dieu. Et ça ne le quitte pas, et c'est une sorte d'obsession qui le fait s'égarer complètement et qui fait qu'il est perdu pour l'éternité, qui sera jeté dans l'étang de feu, car il ne peut plus changer d'avis, d'état d'esprit, il est bloqué dans cette volonté de ressembler, de prendre la place de Dieu. Comment est-il devenu comme ça? Il n'a pas toujours été comme ça. Il y a une croyance qu'on appelle le dualisme, et qui existe beaucoup dans les religions orientales comme l'hindouisme, c'est qu'il y a toujours eu le bien et le mal ensemble. Par exemple, le yin et le yang, vous avez déjà entendu parler, hein, avec le symbole là, le rond avec le noir et le blanc, et il y a un peu de noir dans le blanc et un peu de blanc dans le noir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans tout bien, il y a un peu de mal, et dans tout mal, il y a un peu de bien, et que le bien et le mal coexistent depuis toujours. Eh bien, c'est un mensonge du diable, un de plus. Parce que le bien et le mal ne coexistent pas, la lumière est séparée des ténèbres, et Dieu a créé tout bon. Il n'a pas créé le mal. Quand Dieu a créé l'univers, les anges, la terre, le ciel et après l'être humain, tout était parfait. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de mal. Mais le mal est entré dans l'univers à travers un ange. Et si vous prenez avec moi Ézéchiel 28, nous découvrons ce qui s'est passé dans le ciel. Ézéchiel 28, verset 14. Ici, Dieu, le Saint-Esprit, parle au roi de Tyr, et à travers le roi de Tyr, il parle du diable, hein, de Satan. Le roi de Tyr était un ennemi d'Israël. Et tout en disant les méfaits du roi de Tyr, il va aussi parler de Satan, faire une sorte de parenthèse. Et là, il dit, verset 14, « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. » Donc ça, c'est au ciel. « Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. » Ici, on découvre qu'il y avait un chérubin protecteur. Qu'est-ce que c'est un chérubin protecteur? C'est une sorte d'archange qui garde la gloire de Dieu. Où est-ce qu'on les retrouve, les chérubins protecteurs? Ils ont été sculptés sur l'arche de l'Alliance, dans le lieu très saint. Vous savez, ce coffre qu'on appelle l'arche. Et sur ce coffre, il fallait sculpter deux anges avec leurs ailes, là. Et leur but, c'est de garder la gloire de Dieu. Sur l'arche de l'Alliance, ce sont des statues, hein, ce sont c'est en bois, c'est sculpté. Mais il y a des vrais anges, des vrais chérubins protecteurs qui sont devant la gloire de Dieu. On les trouve à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament et notamment dans Ézéchiel. Et donc ce sont les anges qui sont les plus proches de Dieu puisqu'ils sont face à la gloire de Dieu, à toute la lumière de Dieu. Et il a été intègre dans ses voies, cet archange, jusqu'au jour où, pour une raison qui nous est inconnue, l'iniquité est entrée dans son cœur. Quelle était cette iniquité? On la découvre en Ésaïe 14, qui est un passage un peu parallèle. Ésaïe 14, je vous avais dit que je vous ferais circuler dans la Bible. Verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Là, c'est une prophétie sur le roi de Babylone. Et encore une fois, à travers une prophétie sur un roi, le Saint-Esprit va nous révéler des choses sur l'esprit de Satan, l'esprit du diable. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'établirai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Les étoiles de Dieu, ce sont les anges. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du nord. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Et c'est là où on voit ce qui s'est passé dans le cœur de cet archange, ce chérubin protecteur. Il a voulu être semblable au Très-Haut. Il a voulu prendre la place de Dieu. Il s'est enorgueilli. Et dans Ézéchiel, on n'a pas lu tout le passage, mais il est dit, hein, par la splendeur, par ta beauté, tu t'es enorgueilli. Ces chérubins sont évidemment des créatures extraordinaires que Dieu a faites, hein. Et peut-être qu'à un moment, il a commencé à regarder sa propre beauté et à dire, je suis une créature extraordinaire. Mais au lieu de dire, gloire à Dieu qui m'a créé, il a commencé à dire, gloire à moi. Je suis beau, je suis extraordinaire. Et pourquoi je serais là juste à garder la gloire de Dieu? Pourquoi moi, est-ce que je ne pourrais pas être à la place de Dieu? Pourquoi les anges ne pourraient pas se prosterner devant moi? Comment cette idée est venue, c'est un mystère quelque part. Mais c'est comme ça que le mal est entré dans l'univers, que le premier péché de l'univers est apparu, on peut dire, à travers cet archange qui était Satan. Il ne s'appelait pas Satan, hein, il était un chérubin protecteur, il est devenu Satan parce que Satan, c'est le nom hébreu qui veut dire l'adversaire de Dieu. Diable, c'est le nom grec qui veut dire l'accusateur, le diviseur. Et donc, il est devenu Satan, Dieu l'a chassé, bien sûr, hein, de sa présence. Dès que cet orgueil est arrivé, Dieu l'a chassé et il s'est retrouvé dans les lieux célestes où on le retrouve. Si vous lisez le livre de Job, vous verrez que Satan se promène et il va un moment voir Dieu pour lui parler de Job. Et en fait, c'est Dieu qui parle de Job. Et il dit à Satan, regarde Job, mon serviteur, n'est-il pas merveilleux? Et Satan, bien sûr, tout de suite met en doute la parole de Dieu. Il dit, non, non. S'il est juste, s'il t'obéit, c'est parce que tu le bénis, mais enlève-lui tout ce qu'il a, tu verras. Et on voit après la suite. Satan a pour but de détruire tout ce que Dieu a fait. Comme il veut prendre la place de Dieu et qu'il ne peut pas vaincre Dieu, il le sait bien, qu'il ne peut pas vaincre Dieu. Alors il va s'attaquer à tout ce que Dieu a fait, toutes ses créatures, toute sa création. Il a réussi à amener la malédiction sur toute la terre. Il a commencé avec, bien sûr, des anges. Il a emmené avec lui des anges. C'est dans l'Apocalypse, hein, qu'il dit qu'un tiers des anges l'ont suivi. Ils sont devenus les démons. Les démons sont des anges déchus, d'une certaine façon. Ce sont des êtres spirituels qui ont une certaine capacité, mais qui sont vers le mal, qui servent, qui sont au service du diable. Après avoir corrompu les anges, il a corrompu Ève et Adam. Il est arrivé sur la terre, mais est-ce qu'il s'est présenté comme ça devant Ève? Non, la Bible dit que c'est à travers le serpent. Pourquoi Satan a-t-il choisi le serpent? La Bible nous dit parce que le serpent était l'animal le plus rusé. Il a choisi un animal rusé, parce que Satan lui-même est le chef de la ruse, hein. Et à travers ce serpent qui avait l'air peut-être inoffensif pour Ève, il a commencé à lui parler. Alors, comment elle n'était pas étonnée qu'un serpent lui parle? La Bible ne le précise pas. Peut-être que les animaux pouvaient parler, on ne sait pas. Bon, peu importe, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais Satan commence à parler, déguisé derrière le serpent, et il amène Ève à prendre ce fruit interdit, ce qui amène Adam à suivre sa femme et à le prendre et à désobéir également à l'ordre de Dieu. Et la malédiction entre sur la terre, la mort, le péché, tout ce que nous voyons comme mal. Quand il y a du mal sur la terre, ce n'est pas Dieu qui fait le mal. Les gens disent souvent, oh, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais ce n'est pas le bon Dieu justement qui fait ça. C'est Satan qui est à l'origine du mal. C'est Satan qui détruit, qui corrompt, qui s'acharne, qui sème le doute, qui sème le mal partout. Dieu est lumière, il est dit, il n'y a point en lui de ténèbres. Hein. Toute chose bonne vient du Seigneur. Non seulement il s'est attaqué à Ève et Adam, mais il a commencé à corrompre toute la race humaine au temps de Noé. Quand vous lisez dans Genèse 6 que toutes les pensées des hommes se tournaient chaque jour exclusivement vers le mal. C'est-à-dire que à cette époque-là, il avait tellement corrompu les êtres humains que toute l'imagination, les réflexions des gens, c'était comment je peux faire le mal? Comment je peux voler? Comment je peux tuer? Comment je peux dominer? Comment je peux faire souffrir? Et vous savez que encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, hein, il y a plus qu'on imagine, qui sont dans cette attitude en permanence, des pervers, des sadiques, des criminels. Ils sont tout le temps en train de réfléchir comment je peux faire le mal encore mieux. Il n'a pas réussi parce que Dieu a dû sauver l'humanité en noyant la terre par le déluge. Il a sauvé une famille, Noé et sa famille, qui ont pu rebâtir l'humanité, Noé étant un homme juste, c'est-à-dire un homme qui avait la foi en Dieu et qui marchait droit avec Dieu. Après cela, il a commencé, Satan s'est attaqué aux descendants de Noé et d'Abraham, etc., au peuple d'Israël. Il a suscité des ennemis parce qu'il savait que d'Israël viendrait le Messie, le Sauveur. Il s'est donc dit, si je détruis Israël, si j'élimine Israël de la terre, Dieu a perdu. Parce que ses promesses seront vaines. Le Messie ne viendra pas. Et j'aurai pris la terre, je serai le roi de la terre définitivement. Et donc il s'est attaqué et acharné sur Israël. Vous rappelez les Égyptiens, comme ils ont commencé à haïr leurs esclaves israélites et à les persécuter. Ils ont pu s'enfuir, mais ensuite il y a eu Aman, hein, l'ennemi en Perse, là, hein, au temps de la reine Esther, Aman qui avait fait publier un décret de tuer tous les juifs de la Perse. Et aujourd'hui, malheureusement, en Perse, c'est-à-dire en Iran, il y a toujours cette haine des juifs d'Israël. Chez les chiites iraniens, hein, qui sont la religion principale en Iran, musulmane, leur croyance, c'est que la fin du monde ne pourra venir, et le règne d'Allah, hein, le bonheur sur terre ne pourra venir que quand Israël sera totalement détruite. Tant qu'Israël n'est pas détruite, Allah ne peut pas amener le bonheur sur la terre et la fin du monde. Et donc c'est pour ça qu'ils ont pour but de détruire Israël. C'est pour ça que si on leur donne la capacité de faire une bombe atomique, il y a de quoi avoir peur. Il a suscité Aman, il a suscité bien sûr beaucoup d'autres massacreurs de juifs, le dernier en date étant Hitler et ses sbires, hein. Comment imaginer qu'on veuille éliminer tout un peuple? Ils ont réussi à tuer 6 millions de personnes simplement parce qu'ils étaient juifs. Et il ne les a pas tués dans une guerre, il les a tués dans une machine à tuer, dans une sorte de système à éliminer une race. Voilà. Son but, c'était d'éliminer la race juive totalement de la terre. Il a failli réussir, Dieu l'a arrêté à temps. Et Dieu a même renversé ses plans, puisque aujourd'hui les Juifs ont une terre à nouveau en Israël. Mais il va recommencer avec l'Antichrist. Dans l'Apocalypse, nous voyons qu'il y aura à nouveau cette haine d'Israël, des Juifs. Toutes les nations vont même se rassembler pour attaquer Jérusalem et s'attaquer en fait au Seigneur, encore une fois, au Messie. Et le Seigneur reviendra en gloire pour écraser les armées de l'Antichrist. Mais il ne s'arrête pas aux Juifs, il s'attaque aussi au corps de Christ, l'Église. Il s'est attaqué à Jésus directement, puisqu'il a réussi à entrer dans Juda pour que Juda trahisse Jésus et qu'il soit livré aux autorités. Et il a réussi à convaincre les autorités de faire tuer Jésus et de le faire crucifier. Et il s'était dit, ça y est, j'ai éliminé le Messie. Sauf que, comme Satan n'est pas omniscient et n'est pas si intelligent qu'on le pense, parce que l'orgueil rend bête, hein, la méchanceté rend idiot. Tout en participant à la mort de Christ, il ne se rendait pas compte que la mort de Christ était justement la victoire de Christ parce que Christ est ressuscité après. Il a contribué à sa propre perte sans s'en rendre compte, hein. Mais il a quand même essayé de le faire jusqu'au bout. Et aujourd'hui, il s'attaque aux chrétiens, à l'Église, le corps de Christ. Il s'attaque de deux façons à l'Église, frontalement, par la persécution, et ça continue, et ça même, ça augmente en ce moment, la persécution avec les armées islamistes, et puis aussi subtilement, par la division et par les fausses doctrines. Ils sèment des fausses doctrines, la Bible parle des doctrines de démons. Les démons suscitent des mauvaises interprétations de la Bible, des fausses doctrines. Et il y a des gens qui sortent des églises, par exemple, la plupart des sectes d'origine chrétienne viennent d'églises normales, chrétiennes, bibliques. Et puis un jour, il y a un gars dans cette église, il a commencé à avoir des idées un peu farfelues, et il a fondé son groupe, sa secte, qui a grandi. Quelque part, Mahomet, c'est un peu ça, hein. Mahomet s'est inspiré énormément du judaïsme qui l'entourait. Et il a fait sa propre secte judéo-chrétienne, et on voit ce que c'est devenu. Mais les témoins de Jéhovah, c'est pareil. C'était des adventistes du septième jour, qui étaient eux-mêmes des baptistes du septième jour, hein. Il y a eu toute une lignée là qui a donné les témoins de Jéhovah, qui sont une secte avec des erreurs doctrinales graves. Pareil, les adventistes aussi, même les mormons, hein. Et tous ces groupes ont une origine chrétienne, et Satan a semé une fausse doctrine, et ils sont partis dans le décor. Il faut tout le temps être vigilant sur ce qu'on croit, sur la parole de Dieu, parce que le diable est subtil. Alors, le chrétien, oui, nous, chrétiens, nous sommes sa cible favorite. En Éphésiens 6:11, si vous prenez avec moi, il y a cet avertissement très important pour nous. Éphésiens 6, verset 11, revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruse du diable. Donc nous avons un ennemi rusé, toujours l'idée de ruser, hein. Et là, le mot même qui est utilisé, c'est le mot méthode. Satan a des méthodes, a des façons de faire, des principes qui reviennent tout le temps. Comme je vous l'ai dit, il est un peu borné et bête, hein. Donc quand on le connaît, et c'est ça le but de ce message, c'est de connaître notre ennemi, de ne pas ignorer ses desseins pour pouvoir le discerner et le démasquer et le vaincre par la foi. Donc on doit avoir toute l'armure de Dieu pour résister contre les ruses du diable. L'armure de Dieu, vous la connaissez plus ou moins, hein, la foi, la justice, le zèle, la sainteté, et combien c'est important d'avoir toutes ces vertus chrétiennes, spirituelles, pour ne pas être un chrétien fragile et un chrétien battu. Alors, ici, il parle des ruses du diable. Quelles sont les ruses, les pièges du diable? Malheureusement, ils sont nombreux. Mais on va en voir sept. Première ruse, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Bien sûr. Il le fait croire d'abord aux incroyants. Beaucoup d'incroyants disent « Oh, le Dieu, le diable, tout ça, pff, ça n'existe pas, c'est des superstitions, etc. » Et le fait de croire qu'il n'existe pas, ça lui permet de se cacher encore mieux. Parce que quand on n'existe pas, on peut faire des choses en cachette. Hein. Et il touche les gens à travers quoi? À travers l'astrologie, par exemple. À travers toutes les pratiques de médium, les pratiques de voyance, les idolâtries, les statues. Les gens qui vénèrent des statues ou des images sont en danger d'être touchés, hein, par le diable qui se cache derrière. En France, comme on est plutôt un pays rationaliste et sceptique, il y a peu, en apparence, hein, de cas de possession, de choses comme ça, visibles, ou de gens qui croient vraiment à ces choses-là. Mais il en existe. Et on a tendance à les mettre à l'hôpital psychiatrique, hein, parce que ça ressemble à un phénomène psychiatrique. Mais il y a un certain nombre de personnes, ce n'est pas psychiatrique, c'est spirituel. Ils ont touché à des choses occultes. Rien que de regarder son horoscope peut vous amener, hein, à l'occultisme et à être possédé ou à être influencé. De regarder son horoscope ou son thème astral. Aujourd'hui, il y a un nouveau jeu chez les adolescents. Les adolescents sont des proies faciles, hein. C'est un jeu avec des crayons et vous mettez deux crayons, une étiquette oui, une étiquette non, et vous interrogez l'esprit. Dis-nous oui, dis-nous non. Et un certain nombre de fois, les crayons bougent tout seuls. Alors, en tout cas, il y a des cas recensés par des ados qui sont effrayés, ils racontent. Hein, à un moment, on a dit « Esprit, parle-nous, dis-nous si c'est ça ou ça. » Et le crayon s'est mis à bouger. C'est une variante de ce qu'on appelle le Ouija. Je ne sais pas si vous connaissez le Ouija, qui est aussi avec une flèche qui tourne, hein, et vous demandez des choses et l'esprit vous donne une réponse avec des lettres, il vous fait des mots. C'est vraiment une communication avec le monde invisible des esprits, sauf que ce ne sont pas des esprits neutres, ce sont des démons. Mais qui se font passer pour qui en général? Pour les esprits des morts. Parce que les gens interrogent leur grand-père, leur grand-mère, leur mari, leur cousin, mon ancêtre, et ils pensent que c'est cet ancêtre qui est en train de leur répondre. Mais en réalité, les ancêtres ne peuvent pas répondre. Ils sont soit au ciel, soit en enfer, malheureusement, hein. Et là où ils sont, il y a un gouffre, ils ne peuvent pas nous parler. Donc, qui est-ce qui nous parle? Qu'est-ce qui répond avec ces objets? Ce sont des démons. J'avais un ami, quand j'étais adolescent, qui avait des dons de médium. Et on avait tous peur de lui. Il avait une influence qui était palpable, une influence maléfique, mais vraiment palpable. Et il l'utilisait pour séduire, pour dominer. Et Dieu m'a protégé de m'acoquiner avec lui, hein. Mais c'était tentant en même temps. Vous dites, ah, l'interdit, le mystère, des pouvoirs extraordinaires. Qui ne voudrait pas ça? Donc Satan fait croire qu'il n'existe pas, mais il existe bien et il y a malheureusement beaucoup de gens qui souffrent de ces ruses. Deuxième piège, il se déguise bien sûr, toujours. La Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière, hein, par exemple. Il s'est déguisé avec le serpent, il se déguise en brebis, hein, les loups en vêtements de brebis, c'est-à-dire il veut diviser une église, il vient à travers une personne qui est très gentil, très affable, qui gagne le cœur de tout le monde. Et puis, quand elle a bien gagné le cœur de tout le monde, pouf, elle sort une fausse doctrine ou un truc comme ça, et tout le monde est piégé. Voilà. Des loups déguisés en brebis. Ils se déguisent à travers les statues, encore une fois. Beaucoup de possessions démoniaques, notamment dans les religions païennes, les animistes ou les idolâtres, tout simplement, les polythéistes, sont possédés par des esprits. En Chine, par exemple, il y a énormément d'esprits, l'esprit de la montagne, l'esprit de la colline, l'esprit de l'arbre, l'esprit de... Et il y a énormément de cas de possession dans ces pays, en Afrique également, avec l'animisme. Pourquoi? Parce que Satan se déguise. Il ne vient pas tel qu'il est. Il se déguise aussi en ange de lumière parce que il veut qu'on croie qu'il est merveilleux. Là aussi, c'est un piège, hein. Lucifer, l'ange de lumière, est considéré par certains groupes occultes comme un être extraordinaire, un être merveilleux qui a toute la lumière et la connaissance. Et plus tu t'approches de lui, plus tu as la connaissance, la gnose, ça s'appelle, hein. On retrouve ça dans la franc-maçonnerie, mais surtout dans l'autre partie qui cherche l'or, là, qui veut changer le plomb en or. La rose-croix et l'alchimie. Voilà, l'alchimie et la rose-croix. Voilà, une branche de la franc-maçonnerie, mais qui est vraiment très liée à l'occulte et à la recherche de cet ange de lumière, de cette lumière. Et ils pensent. Ils disent, bon, la Bible, c'est bien, mais il faut chercher cette lumière intérieure, cette lumière spirituelle. Et tout ce qui trouve, c'est évidemment Satan. Troisième ruse, c'est qu'il va diviser les frères et les sœurs. Là, on est plus près de l'église locale. D'un seul coup, on se rapproche. Satan, le diable, c'est l'accusateur, le diviseur. Donc, comme une église unie, forte, qui prie, qui évangélise, c'est son pire ennemi. Parce qu'une église qui fait ça, elle prend des parts sur son territoire, elle gagne des âmes, elle avance avec la prière, et Satan est obligé de reculer face à une église comme ça. Le seul moyen de la démolir, c'est soit la persécution, soit la division. En France, par exemple, il va avoir du mal à avoir une persécution, parce que nous sommes dans une relative démocratie. Et donc, en France, il va utiliser la division, il va semer des querelles, pour des détails, c'est toujours des détails en général, et au lieu de s'aimer, d'être unis dans le même combat, on va se quereller pour des bêtises. Pareil dans les couples aussi, hein. Et donc notre frère Jean-Alain a beaucoup parlé de ça avec Philippiens, hein, et combien c'est un sujet important de ne pas se laisser prendre par ce piège, cette ruse de la division dans l'église locale. Après, il y a une autre ruse. Et ce sont les fausses doctrines. Et en fait, parce qu'il y a une division à un autre niveau, il y a la division dans l'église locale, mais il y a aussi la division entre églises. Le fait qu'on ne soit pas tous unis, qu'on ne croit pas tous la même chose, il y a les catholiques, les protestants, les évangéliques, les baptistes, les pentecôtistes, et beaucoup de gens disent, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il n'y a personne d'uni alors qu'ils sont tous chrétiens. Mais ce bazar, ça vient de qui? Ça vient du diable, qui sème des fausses doctrines qui font qu'il y a des groupes qui se mettent à prêcher des choses fausses. L'Église de Rome, a ajouté au fur et à mesure des siècles des fausses doctrines. Ce qui fait que les chrétiens qui suivaient la Bible ne pouvaient pas suivre l'Église de Rome. Ils disaient, moi, je ne peux pas créditer les indulgences, la vénération de la Vierge, la prêtrise, la papauté. C'est pas possible, ça contredit la Bible. Et donc ces chrétiens ont dû se séparer. Et ils ont été persécutés, hein. Et aujourd'hui, il y a le mouvement œcuménique qui essaie de rassembler tout le monde. Et ça a l'air merveilleux, le mouvement œcuménique. Mais en fait, le mouvement œcuménique fait fi des doctrines. Il dit, ne parlons pas doctrine. Réunissons-nous sur ce qui nous unit. Qu'est-ce qui nous unit? Tu crois en Dieu, moi aussi. Tu crois en Jésus, moi aussi. C'est merveilleux. Unissons-nous, prions ensemble. Et tout ça est formidable. Sauf que si on ne prêche pas le même évangile, par exemple, si on n'a pas la même notion du Saint-Esprit, de la vie chrétienne, tout ça, c'est de l'apparence. L'œcuménisme est vraiment basé sur l'apparence. Et au fond, les gens qui sont dans l'œcuménisme sont obligés de reconnaître qu'il n'y a pas une vraie unité entre eux. Ce n'est pas profond. La vraie unité, Dieu la veut dans l'église locale. Et c'est pour ça qu'il y a des églises locales dans le Nouveau Testament. Il s'adresse à l'église d'Éphèse, à l'église de Colosse. Et c'est l'Église locale qui est la maison de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité, hein, comme il dit dans Tite. Et c'est là qu'on doit être unis le plus possible. Et si on peut être unis avec d'autres églises locales, tant mieux, faisons-le, hein, bien sûr. Parce que c'est très important d'être un réseau d'églises, hein, et de chrétiens qui ont la même vision et les mêmes convictions. Un autre piège, une ruse, c'est de nous faire peur. Satan essaie d'effrayer le chrétien, de dire « Oh là là, mais tu sais, si tu te consacres à Dieu, ça va être horrible. » Ou « Ah, tu veux te faire baptiser, mais tu vas voir, je vais te le faire payer, ça. » Et les épreuves commencent à tomber, les problèmes, les obstacles, les machins. Et le chrétien, à un moment, peut se dire « Mais c'est pas possible, depuis que je suis chrétien, j'ai plus de problèmes qu'avant. Est-ce que c'est normal? » Je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont vécu ça ou qui m'ont posé la question. Hein. « Est-ce que c'est normal? » Et je dis « Malheureusement, ça l'est un peu. » Ça n'arrive pas à tous les chrétiens, mais le fait que vous soyez chrétien, que vous ayez une foi profonde et que vous voulez avancer avec Dieu, ça a réveillé votre ennemi, Satan, et il va essayer de vous démolir. Mais il ne peut pas vous toucher, vous. Donc il va vous faire peur. Il va vous envoyer des problèmes et il va vous amener à vous décourager. Ce qu'il veut, c'est que vous baissiez les bras et vous dire, oh, c'est trop dur. Ou j'ai peur, je préfère être tranquille. Moi, je suis pantouflard, moi, je veux pas de soucis, je veux pas de problème. C'est ça son but. Mais là, il faut persévérer et on va voir comment hein, on se défend. Une chose qu'il faut savoir, c'est que Satan n'est pas omniscient, c'est-à-dire il ne sait pas tout. On a tendance à penser que Satan est comme Dieu. Il n'est pas du tout comme Dieu, il est une créature. Donc, il ne sait pas tout. Il ne peut pas tout savoir, tout comprendre. Il n'est pas omniprésent. Donc il n'est pas partout en même temps. Alors, certains ont dit, mais quand même, avec le nombre de démons qu'il a, il arrive à manipuler quand même beaucoup de choses. C'est très possible, hein? Mais il n'est pas omniprésent. Il ne peut aller qu'à un seul endroit en même temps. Donc, il ne faut pas le craindre exagérément. Il ne faut pas dire, oh là là, Satan est partout. Chaque fois qu'il m'arrive un pépin, comme ce pasteur qui parlait sur l'estrade, il prêchait un message, et puis il a trébuché avec le fil, d'ailleurs, ce qui va nous arriver un jour ici, et en trébuchant, il a dit, ah, voyez, les démons m'attaquent, hein, mais je vais résister. Bon, c'est pas parce que vous trébuchez sur un fil que c'est les démons qui vous attaquent. Il faut peut-être pas exagérer non plus, voir Satan partout. Il y a des gens qui voient Satan, le diable, partout. Il n'est pas partout. Il est un endroit à la fois. N'ayons pas peur. Il veut aussi, et c'est l'avant-dernier piège, nous tenter, bien sûr. C'est le tentateur. Hein, la Bible l'appelle comme ça, d'ailleurs. Donc, il veut nous tenter pour qu'on fasse quoi? Pour qu'on pêche. Et quand on pêche, ben, on se sent mal, on a une mauvaise conscience, on se sent sale. Du coup, ben, on ne prie plus, on ne témoigne plus, on ne va plus à l'église parce qu'on dit, oh là là, je suis pas digne d'aller à l'église. On ne prend plus la Sainte Cène, on ne fait plus rien. Parce qu'on dit j'ai péché. Et surtout, il va vous amener à faire un péché grave, si possible, pour que vous soyez vraiment bien coincé. C'est une ruse, encore une fois. Déjà, il faut bien sûr ne pas se laisser tenter. Mais la Bible dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et même si on a un chrétien commet un péché, même si c'est assez grave, il doit payer les conséquences, mais il doit aussi trouver le pardon auprès de son avocat. Il a Jésus-Christ qui plaide pour lui par son sang. Et on ne doit pas se laisser décourager par les chutes ou par les tentations. Le dernier, c'est bien sûr nous faire douter de Dieu. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Il a fait avec Job. Job te sert-il avec un cœur sincère? Il est tout le temps en train de semer le doute. Ça, c'est le diable. Et d'ailleurs, j'aime bien ce passage de 1 Corinthiens 13 sur l'amour, où il dit « L'amour ne soupçonne point le mal. » L'amour, c'est le contraire du diable. L'amour ne met pas le doute. L'amour ne fait pas de ragots, de calomnies, etc. L'amour est vrai. L'amour est pur. L'amour est limpide. Satan, lui, il met le doute, et le doute sur notre Dieu. Mais pourquoi Dieu ne te bénit pas plus que ça? Pourquoi il ne t'a pas aidé dans ce problème? Pourquoi il n'a pas fait ci pour toi? Ah oui, dis donc, c'est vrai. Quand même, mais oui, regarde. Et à Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit? Mais tu es là depuis 40 jours, tu as faim, tu as jeûné, tu n'as rien à manger. Pourquoi Dieu te laisse comme ça? Change ces pierres en pain, tu as la capacité de le faire. Et c'est vrai, Jésus aurait pu prendre une pierre, la changer en pain et manger. Mais pourquoi Jésus n'a pas obéi à ce ce conseil avisé, rusé du diable. Il n'a pas obéi parce qu'on n'obéit jamais au diable. On ne l'écoute même pas d'ailleurs. Hein. Jésus ne l'a pas vraiment écouté. Jésus ne l'a fait que lui citer la Bible à chaque fois. Hein. Il lui a répété un verset de la Bible. Tac, tac, tac. Et Satan, au bout d'un moment, il en a eu marre, il est parti. Et Satan veut nous amener à douter de la bonté de Dieu. On n'a pas à douter. Dieu est bon. Dieu nous aime d'un amour éternel. Dieu l'a prouvé en donnant son Fils. Et si jamais le doute vient dans votre esprit, rejetez-le, chassez-le, dire non, ça c'est du diable. Dieu est bon. Comment affronter le diable? Et c'est la fin de ce message, la conclusion. Le Seigneur nous a donné plusieurs éléments. Le premier, c'est le sang précieux de Christ qui a coulé à la croix pour nos péchés. Apocalypse 12, 11 nous parle de ces croyants qui vont souffrir beaucoup pendant la grande tribulation. Ils vont faire face directement au dragon, hein, qui est le diable en fait. Nous ne serons pas là à ce moment-là, mais il y a ces croyants qui auront cette guerre terrible. Apocalypse 12, 11. Il est dit, alors pardon, verset 10 pour le contexte. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, c'est qui? Satan, le diable, hein? Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Voilà, c'est le travail du diable, hein? Et comment ils l'ont vaincu, verset 11? À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ces chrétiens, ces croyants mourront pour leur foi, hein? Et il y en a encore aujourd'hui, tous les jours, hein, des chrétiens qui meurent pour leur foi. Mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Quand Satan les accuse, tu peux nous accuser tant que tu veux. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus a coulé pour moi. Je ne peux plus être condamné. La Bible le dit, hein, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et quand Satan veut nous accuser comme il a accusé Job, comme il a accusé Jésus et tout le monde, le sang de Jésus a coulé pour moi. Tu peux essayer de me culpabiliser tant que tu veux. Je répondrai, le sang de Jésus a coulé pour mes péchés. D'ailleurs, la croix a été une victoire extraordinaire. Colossiens 2,15 nous dit à quel point Jésus a vaincu Satan et les démons. Colossiens 2, verset 15. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Quand vous voyez cette expression dans votre Bible, les dominations et les autorités, ça nous parle des esprits démoniaques, hein, le diable et les démons. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Qu'est-ce que ça veut dire, il les a livrées en spectacle? C'est une expression qu'on utilisait à Rome. Lorsqu'un général romain était victorieux, qu'est-ce qu'il faisait? Il rentrait à Rome avec des prisonniers enchaînés et il les livrait en spectacle à la foule. Il disait: Regardez, les ennemis sont vaincus. Regardez-les. Et les gens, bouh, bouh, il leur jetait toutes sortes de choses, hein, et les ennemis étaient humiliés en public par le vainqueur. Eh bien, c'est cette expression-là qu'il utilise quand il dit il les a livrés en spectacle. Par sa croix, par sa mort sur la croix, qui pourtant a l'air d'être une défaite, hein, quand on le voit comme ça, Christ, en fait, était en train de vaincre, d'humilier, on peut dire, Satan et ses démons. Pourquoi? Pourquoi la croix a eu ce pouvoir? Parce qu'en mourant sur la croix, la Bible dit qu'il a pris nos péchés. Quelle est la force du diable, de l'accusateur? Les motifs d'accusation. Donc, nos péchés. Et s'il n'y a plus de péché, il n'y a plus de motif de nous accuser. Si Jésus efface les péchés par son sacrifice, il ne peut plus, il n'a plus de prise sur nous. C'est pour ça qu'il est dit aussi qu'il nous retenait par la peur, de la crainte de la mort aussi, hein, dans l'Épître aux Hébreux. On n'a plus à craindre la mort parce que Jésus a passé la mort, il a vaincu la mort pour nous. Donc il est battu, humilié. Et on ne doit pas insulter Satan, hein, la Bible le dit, on ne doit pas lui parler directement d'ailleurs, on n'a rien à lui dire, il n'a rien à nous dire. Mais par contre, on peut clamer notre victoire à travers Christ, dire: Seigneur Jésus, tu as vaincu mon ennemi, tu as vaincu Satan, tu l'as humilié, tu l'as livré en spectacle par ta croix. L'autre façon de lutter, c'est de ne pas avoir peur. Philippiens 1,28, ne vous laissez pas aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Un chrétien qui a peur est un chrétien qui perd ses moyens, qui n'a plus la foi est le contraire de la peur. Et la foi donne un courage, une audace. La foi, c'est la victoire. La peur, c'est la défaite, c'est le recul. Et donc, le chrétien ne doit pas se laisser effrayer. Si vous avez lu Le Voyage du Pèlerin, il y a ce passage marquant avec le chemin des lions. Donc, le pèlerin, là, est dans sa vie chrétienne et il se retrouve un moment dans un chemin où il voit des lions, ou peut-être des chiens méchants, je ne sais plus, des lions, qui sont là, mais rugissants, vraiment effrayants, et qui sont le regardent de près et qui veulent vraiment le dévorer. Et on lui dit, avance. Il dit, non, je ne vais pas avancer là, moi, je vois des lions, ils vont me sauter dessus. Avance, par la foi. Alors, il obéit à Dieu, et par la foi, il avance sur ce chemin. Et qu'est-ce qui se passe? Les lions lui sautent dessus, sauf qu'ils ont une chaîne trop courte. Et il s'arrête là, et lui, il passe au milieu sans être touché. Et c'est vraiment, je trouve, une magnifique allégorie hein, de la vie chrétienne et du diable. Le diable rugit, comme un lion, dit la Bible, hein. Ah, je vais t'avoir, je vais te détruire. Et c'est vrai qu'il est fort, il est très fort. C'est un archange, même s'il a perdu toute sa gloire. Hein. Il reste encore fort, mais il a une chaîne. Et Dieu ne permettra pas qu'il nous touche. Hein. Dieu ne permettra pas qu'il nous touche. À moins qu'on se laisse toucher. Bien sûr, si vous allez embrasser le lion, là, il n'y a rien qui peut vous sauver. Mais si vous marchez bien droit, il ne pourra pas vous toucher. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer par les rugissements du lion. Les rugissements du lion, ça peut être aussi des êtres humains, parce que Satan utilise des êtres humains, évidemment. Il se cache toujours. Hein. Éphésiens 6 nous dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nos vrais ennemis ne sont jamais les êtres humains. Il ne faut pas se tromper d'ennemi. Même un djihadiste qui veut vous couper la tête n'est pas votre véritable ennemi. Le véritable ennemi, c'est Satan qui l'inspire. Hein. C'est lui le véritable ennemi. Et on doit essayer de voir l'ennemi hein, à travers la personne et non pas de voir la personne. C'est un être humain, c'est un frère humain comme moi. Sauf qu'il a été complètement endoctriné et possédé, on peut dire. Hein. Et Jésus est allé vers les possédés. Rappelez-vous cet homme dans le cimetière. Hein. Jésus est allé vers les possédés, il les a délivrés. Ça veut dire qu'un possédé n'est pas quelqu'un qui est fini pour toujours, c'est quelqu'un qui peut être sauvé. Un djihadiste musulman peut être sauvé. Alléluia et Amen. Prions qu'il y en ait plusieurs qui se convertissent et qui témoignent. N'ayons pas peur, nous devons aussi, troisième chose, résister. Ça, c'est dans Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Je suis un peu long ce soir. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. On doit résister. On ne doit pas discuter, se laisser convaincre, dire « oui, peut-être il a raison, je vais faire un peu de chemin avec toi ». Non, le diable vient, on résiste. Et le fait de résister, ça suffit. Il fuira loin de vous. Hein. Il n'y a pas à se battre contre le diable ou à faire toutes sortes de choses, non. Vous résistez, non, je ne t'écoute pas, non, je ne veux pas tomber dans ton piège. Ou je ne veux pas utiliser tes outils. Quels sont les outils du diable? Le mensonge, l'orgueil, la division, l'envie, la jalousie, la ruse. Non, je ne toucherai pas à ces outils, c'est les outils du diable. Moi, j'utilise les outils de Dieu. C'est quoi les outils de Dieu? La prière, la parole, la foi, l'amour, la pureté. Voilà, je résiste. Dernier élément pour vaincre le diable, il faut le rejeter totalement. Éphésiens 4, 27, ne donnez pas accès au diable. J'aime bien cette expression parce que c'est l'idée d'une tête de pont. Qu'est-ce que c'est une tête de pont? C'est, vous avez votre territoire qui est intègre, qui est à vous, mais dans ce territoire, vous avez un petit îlot qui est aux mains de l'ennemi. Et l'ennemi a une tête de pont, là, dans cet îlot. C'est-à-dire qu'à tout moment, il peut venir se mettre dans cet îlot au milieu de votre territoire, de votre intégrité, et empoisonner votre vie. Et tant qu'il y a cette tête de pont qui est là, vous n'êtes pas tranquille. Et un chrétien ne doit pas laisser un accès au diable. Il ne doit pas y avoir de tête de pont du diable dans ma vie. Qu'est-ce que c'est les têtes de pont? Bien, ce sont les péchés mignons, par exemple. Il y a des gens, ils ont des péchés mignons. Vraiment, ils veulent être consacrés à Dieu. Seigneur, je t'ai tout donné, tout mon cœur, toute ma vie. Et le Saint-Esprit est obligé de dire, tu ne m'as pas tout donné. Il y a ça, ce péché-là, tu ne me l'as pas donné. Tu ne l'as pas abandonné. Et c'est une tête de pont. Et Satan, il vient toujours. Pourquoi on refait toujours les mêmes péchés? Parce qu'en général, on a une série de péchés, hein, on retombe toujours dans les mêmes trucs. Chacun a ses péchés différents. Parce que Satan a une tête de pont, il revient toujours au même endroit. Et à chaque fois, il vous fait chuter, à chaque fois, il vous perturbe, il vous empoisonne la vie. Il ne faut pas lui donner d'accès. Il faut fermer toutes les frontières au diable. Ça veut dire qu'il faut que tout notre cœur soit rempli du Saint-Esprit, hein. Et il faut dire, Seigneur, voilà, même ce péché mignon, je le hais, je le déteste, je l'enlève, je l'abandonne, je te le remets, Seigneur. Lave-moi, purifie-moi. Et Satan ne reviendra pas parce qu'il n'aura plus de tête de pont, n'aura plus d'accès dans votre vie. Il ne pourra que vous effrayer de l'extérieur. Mais ça, si on a compris, ça ne doit pas nous arrêter dans la vie chrétienne. Alors Satan ne va pas s'arrêter avec tout ça, hein. Il va chercher à nous faire peur, à nous attaquer, nous ruser, nous. Mais le chrétien qui marche par la foi marche droit et rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête parce que l'esprit de Christ en nous est plus fort que l'esprit qui est dans le monde, que l'esprit de Satan. Bien sûr, il y aurait encore beaucoup à dire, mais nous devons terminer et méditer tout ce qu'on a vu ici dans la parole de Dieu. On va terminer par la prière et puis par une strophe d'un chant.